Radio Capi.
Le journal, présenté par Gisèle Cage. Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information sur Radio Capi. Voici les titres qui dominent l'actualité aujourd'hui. Journée internationale de la jeunesse. Guy Kibira lance un cri du cœur aux jeunes du Nord et du Sud Kivu, ainsi qu'à ceux de l'Ituri. Rejeter la violence, résister à la manipulation et s'engager pleinement dans la construction d'un avenir digne, apaisé et porteur d'espoir. Lubumbashi, la police frappe fort contre l'insécurité. Lors de la mi-parade hebdomadaire, une bande de présumés criminels a été présentée au commissaire provincial du Haut-Katanga. Une opération coup de poing qui révèle la volonté des autorités de restaurer l'ordre. Goma célèbre l'excellence du café congolais. Guilin Mupenzi Kamundo, directeur exécutif de Congo Agri, revient sur les enjeux de la deuxième édition de la conférence et du concours des qualités du café congolais qui réunit producteurs, exportateurs et partenaires internationaux. Entretien à ne pas manquer. À la une, ce 12 août, la journée internationale de la jeunesse met en lumière le rêve, les défis et l'engagement des jeunes dans la construction d'un avenir meilleur. À cette occasion, Guy Kibira, chef de division de la jeunesse au Nord Kivu, lance un appel vibrant aux jeunes du Nord et du Sud Kivu, ainsi qu'à ceux de l'Ituri. Au micro de Martial Papi Mukeba, il exhorte la jeunesse à tourner le dos aux groupes armés et à faire preuve de discernement face aux tentatives de manipulation. Un message fort, porteur d'espoir et de responsabilité.
Les jeunes doivent faire preuve d'attachement à leur patrie, attachement aux institutions de leur pays et à leurs animateurs. Les jeunes doivent intérioriser un principe cher, mettre la patrie avant les partis, éviter de tomber dans toutes sortes d'instrumentalisation ou de manipulation, quelle que soit leur origine, pour ne pas donner la chance à nos ennemis à prendre le dessus sur nous. Pour nous, surtout qui sommes dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et même l'Ituri, lorsque les jeunes vont dans les groupes armés, ils se transforment eux-mêmes en bourreaux contre eux-mêmes. Puisque ceux qui sont dans ces groupes armés, les coupeurs des routes, ceux qui sont dans X ou Y mouvement, ils rendent des victimes où dans leur village, dans leur cité, dans leur territoire, dans leur province, et ils endeuillent leur père jeune. Qu'ils s'abstiennent de prendre les armes ou de faire usage de l'extrême violence pour que cessent les cas de tuerie ou que ces nombres soient revus très sensiblement à la baisse, contrairement à ce que nous avons comme situation aujourd'hui.
Pendant ces temps, une lueur d'espoir régnait pour la jeunesse de l'Ituri. Après un mois de paralysie due à l'insécurité, l'exploitation artisanale de l'or reprend enfin autour de Lopa et Iga Barrière. Depuis le week-end dernier, plus de 30 000 jeunes orpailleurs ont pu retourner sur le site minier, retrouvant ainsi une source de revenus et de stabilité. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Pendant près d'un mois, une trentaine de sites miniers autour d'Iga Barrière et Lopa sont restés inaccessibles. La cause, l'incursion de la milice Codeco, dont la présence était encore signalée à la périphérie des zones aurifères. Cette situation avait plongé environ 30 000 jeunes orpailleurs dans l'oisiveté. Ils ont multiplié les appels aux autorités militaires pour sécuriser les lieux. Selon le président des jeunes de Lopa, Exipé Ringbatoma, des carrières Mutsi et Tsotso sont de nouveau opérationnelles grâce au déploiement des FARDC. Une troisième malade pourrait rouvrir cette semaine après un ratissage de l'armée. L'exploitation artisanale de l'or est vitale pour la région. Elle permet à de nombreux habitants de gagner leur vie tout en alimentant l'économie locale. Commerçants et négociants y ont installé des maisons d'achat, exportant de l'or vers Bunia et l'Ouganda et important retour des marchandises revendues sur place. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Et puis, dans ce journal également à Lubumbashi, coup de filet du service de renseignement de la police lors de la mi-parade hebdomadaire tenue ce lundi à l'état-major. Une bande des présumés criminels a été présentée au commissaire provincial du Haut-Katanga. Parmi les interpellés, des déserteurs de l'armée et des patrouilleurs soupçonnés de collusion avec les banditismes. Une démonstration de fermeté et des autorités sur place face aux dérives internes. Paul Mounanga nous en dit plus.
Parmi ces présumés criminels, trois déserteurs de l'armée ayant fui l'est de la RDC et se sont lancés dans la criminalité. Il y a aussi des patrouilleurs, dont deux militaires et un policier, accusés d'extorsion et de violation des consignes. D'après la police, ces patrouilleurs ont érigé une barrière illégale près du marché Zambia dans la commune annexe et se sont mis à rançonner les passants. Il y a aussi deux présumés bandits de grand chemin. Pour les commissaires provinciaux de la police du Haut-Katanga, ces arrestations résultent des dernières patrouilles de la police destinée à assainir les rangs des forces de sécurité. Le commissaire divisionnaire Blaise Guilimbalimba fait savoir que la police ne peut pas tolérer des brebis galeuses dans ses rangs et d'ajouter que ces opérations visent à restaurer la confiance entre la population et les institutions chargées de sa sécurité. Au cours de cette mini-parade, le numéro 1 de la police d'Aléo Katanga a instruit tous les commandants de la police de s'occuper aussi de l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Également sur le plan sécuritaire à Beni, les forces de sécurité ont frappé fort. Un groupe de présumés criminels armés ont été présentés ce lundi au gouverneur du Nord Kivu. Ces individus arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche après le braquage d'une institution de microfinance en plein centre-ville comptent parmi eux plusieurs étrangers, argent saisi en francs congolais et en dollars, outils des cambriolages exposés. Les preuves sont accablantes. Le gouverneur, le général Évariste Kakule-Somo exige un jugement rapide en audience foraine. Le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des FARDC dans la région, s'est exprimé à ce sujet. Propos recueillis par Marc Marufimbo.
Il y a eu la présentation de quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative Paidec. Et aujourd'hui, ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soit directement exécuté afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Beni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement à la justice.
Restons dans la région. Une opération conjointe FARDC et PUDF redonne espoir. 9 otages, dont des femmes et des enfants, ont été libérés après l'embuscade tendue samedi dernier par le rebelle ADF à Lessé, à une quarantaine de kilomètres de Beni sur l'axe Eringeti-Kainama. Mais l'inquiétude demeure. 7 autres passagers sont toujours entre les mains des assaillants traqués en ce moment même dans la forêt par les forces conjointes. La société civile de Kainama tire la sonnette d'alarme et appelle à un renforcement urgent de la sécurité sur ce tronçon stratégique, surtout depuis la fermeture de l'axe Luna-Komanda. Bienfait Baraka, conseiller de cette structure, s'est confié au téléphone de Marc Marufimbo.
Nous déplorons cette nouvelle embuscade enregistrée à Lessé. C'est sur le tronçon Eringeti-Kainama. Cette partie est contrôlée par nos forces loyalistes. Nous demandons au service de sécurité de multiplier les stratégies pour mettre fin à ces attaques et embuscades enregistrées sur la route Eringeti-Kainama. Nous craignons que cette route, ce tronçon soit fermé comme celle de Luna-Komanda suite à ces attaques. Pourtant, elle relie des provinces, celles du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est-à-dire, on doit mettre beaucoup d'attention particulière pour mettre fin à ces embuscades, pour ne pas chaque fois endeuiller la population chaque jour. La voiture provenait de Bunia pour Butembo. Nous félicitons parce qu'on a libéré 9 personnes, y compris les écoliers qui provenaient de Bunia pour Butembo.
Jusqu'à présent, aucune réaction officielle des FARDC n'a été obtenue concernant cette affaire. En Ituri, toujours sur les rives du lac Albert, l'espoir renaît grâce à un projet d'aquaculture financé par la MONUSCO. Cette initiative transforme le quotidien d'une centaine d'anciens combattants et des membres de communautés locales. Désormais reconvertis en pêcheurs professionnels, formés aux techniques modernes, ces hommes et femmes gagnent aujourd'hui un revenu stable et appellent d'autres miliciens à déposer les armes pour bâtir un avenir meilleur. Reportage aussi signé Isaac Remoyope.
Depuis 6 mois, une centaine d'ex-combattants et des membres des communautés locales élèvent des poissons dans les eaux du lac Albert. Ils ont été formés à l'aquaculture dans le cadre d'un programme de désarmement financé par la MONUSCO. Au menu de la formation, fabrication des cages flottantes, tissage des filets, alimentation des poissons et même la production artisanale de nourriture pour les alevins. D'autres pêcheurs sollicitent déjà leur aide pour faire face à la raréfaction du poisson. Parmi eux, Emmanuel Tibassima Kiza, ancien milicien, père de 6 enfants. Il est devenu un expert reconnu. Grâce à son savoir-faire, il gagne en moyenne 10 dollars par jour, de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Il appelle ses anciens compagnons à quitter la brousse pour tourner la page des armes.
Ce travail est d'une grande utilité pour construire la paix, surtout pour des jeunes qui cherchent à intégrer les groupes armés cause de la pauvreté. Les jeunes qui ont encore la mauvaise vision sur la sécurité, qu'ils y renoncent, qu'ils quittent la brousse et qu'ils viennent. Le Congo de demain, c'est la jeunesse.
Oui, Congo et Akesho, Ibo Jeunesse.
D'autres bénéficiaires suivent la même voie et lancent leurs propres élevages. Dans les cages, plus de 50 000 alevins poursuivent leur croissance grâce au financement de la MONUSCO dans le cadre des réductions des violences communautaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kinshasa, les voix religieuses s'unissent pour la paix. 8 confessions religieuses réunies au sein du Conseil interreligieux congolais veulent renforcer l'inclusivité dans la quête d'une paix durable en RDC. Ce lundi, elles ont présenté leur analyse du pacte social pour la paix, une initiative portée par la CINCO et l'Église du Christ au Congo. Pour ces leaders religieux, le document mérite d'être enrichi afin de mieux consolider la cohésion nationale. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Dans leur rapport, les experts du Conseil interreligieux congolais recommandent au chef de l'État d'assurer le pilotage institutionnel de toutes les initiatives nationales de dialogue à y associant les composantes de la société civile, y compris les confessions religieuses. Ils proposent à la CENCO et à l'ECC de rendre les organes du Forum national plus inclusif et participatif en les ouvrant à toutes les tendances confessionnelles. Pour sa part, les coordonnateurs du Conseil interreligieux congolais expliquaient leur démarche vise entre autres à promouvoir l'inclusivité et la cohésion nationale pour une paix durable sur l'ensemble du territoire national. Dodo Kamba.
Nous devons rassurer le gens à croire à notre sincérité et bonne foi de vouloir construire avec les autres. Nous courons derrière une cohésion nationale. Il faudrait que les religieux fassent preuve en premier de cet esprit d'inclusivité.
Ces princes de l'Église demandent en outre aux partenaires régionaux et internationaux de soutenir les efforts de paix dans un cadre coordonné avec les institutions nationales en lien avec les dispositifs existants, à savoir accord de Nairobi et processus de Luanda. Ils exigent par ailleurs la prise en compte de la résolution 2773 dans toutes les approches visant à résoudre la crise qui secoue la partie orientale de la RDC.
Autre sujet à suivre dans ce journal, la colère monte à Kisangani dans la province de la Tchopo. Les employés de la société Magenya Protection dénoncent 10 mois sans salaire. Malgré plusieurs lettres adressées à leur employeur, aucune réponse, aucune réaction. Ces agents disent vivre dans une précarité extrême, incapables de subvenir aux besoins de leur famille. Et à l'approche de la rentrée scolaire, l'inquiétude grandit. Ils ne peuvent inscrire leurs enfants à l'école. Ils lancent un appel pressant à leur employeur pour débloquer la situation. Témoignage recueilli par Jacques Moukonkole.
Nous avons des ménages et nous avons des responsabilités de certains enfants à notre charge, hormis nos propres enfants. Vous savez que le salaire a un caractère alimentaire, c'est-à-dire lorsque notre employeur nous prive de notre droit de vivre, puisque le salaire fait partie des droits aussi à la vie, des droits économiques, sociaux, nous devons vivre à partir des salaires provenant de notre travail. Nous demandons à ce que nos autorités puissent nous payer nos salaires pour que nous puissions survenir aux besoins de nos familles. D'ailleurs, l'année passée, l'année scolaire 2024-2025, nos enfants n'ont pas pu terminer. Ils étaient chassés de l'école. Ainsi, nous voulons commencer maintenant une autre année scolaire. Alors, nous trouvons dans l'incapacité à devoir inscrire les enfants ou même préparer la rentrée scolaire à partir des objets classiques de l'école. Qu'ils puissent nous donner les salaires pour que nous puissions survenir aux besoins besoins scolaires, sociaux, familiaux de nos enfants.
Précision importante, contacté à ce sujet, le représentant local de l'employeur affirme que la hiérarchie est informée de la situation. Une réponse officielle est désormais attendue.
Actualité internationale.
La justice ivoirienne durcit le ton ce lundi 11 août. Une information judiciaire a été ouverte pour des faits graves, actes terroristes et complots contre l'autorité de l'État. Dans les viseurs, 11 militants du Parti des Peuples Africains à Côte d'Ivoire, PPAC, récemment interpellés après des violences survenues à Yopougon. Parmi les personnalités citées, Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, Kone Boubacar, ex ambassadeur et une députée suppléante du parti dans la commune. Le PPAC, de son côté, dément toute implication dans les incidents du 1er août qui ont vu un bus et une voiture de police pris pour cible. Face à ces accusations des poursuites politiques, le procureur de la République, Omar Brahman Kone, se veut catégorique. Les poursuites du parquet ne tiennent pas compte des appartenances politiques, affirme-t-il lors d'un débat télévisé dimanche soir.
L'invité.
À Goma, la filière café est à l'honneur. La plateforme Congo Agri, en partenariat avec African Coffee Connect, organise ce lundi 11 et mardi 12 la deuxième édition de la conférence et du concours des qualités du café congolais. Une cinquantaine de producteurs et exportateurs venus du Nord et du Sud Kivu ainsi que leurs partenaires régionaux et internationaux prennent part à ce rendez-vous majeur. Quelles sont les ambitions de cette édition? Quelles enjeux pour les acteurs du secteur? Pour en parler, nous recevons Guilain Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri. Il répond aux questions de Bernard Danyangui.
Monsieur Ghislain Kamondo, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez de la résilience du secteur du café dans le contexte des défis sécuritaires dans notre région. Pourquoi d'abord ce thème?
Ce thème a été choisi parce que d'abord Best of Congo, qui s'organise chaque année, est une conférence et concours de qualité de café congolais. Ça s'organise souvent à Goma, et l'année passée c'était à Londres, et cette année c'est à Goma, New York et Séoul, en Corée du Sud. Alors c'est une conférence qui réunit toutes les coopératives du Nord et du Sud Kivu pour qu'ils puissent proposer leurs micro-lots qui sont dégustés dans des jurys, et après on propose le prix, ce qu'on appelle la vente aux enchères. Mais dans cette année, a un accent très particulier, parce que cette conférence s'organise à un moment des conflits et les producteurs vraiment n'avaient pas espoir, surtout que la guerre est arrivée juste au moment du lancement de la campagne agricole. Et du coup, nous avions choisi le thème de cette année comme la résilience du secteur du café face aux conflits sécuritaires, socio-économiques et Best of Congo comme une voie de sauvetage dans une zone profondément troublée. C'était en réalité donner de l'espoir aux producteurs qui, au début de la campagne, ne pensaient même pas à présenter sur le marché même un seul kilo.
Est-ce que c'est une conférence qui a une dimension internationale?
Justement, c'est une conférence qui a une dimension internationale parce que vous avez suivi dans la salle, il y a des intervenants qui prennent la parole à partir de la Grande-Bretagne à Londres. Il y a des intervenants aussi qui parlent à partir du Pays-Bas. Cet après-midi, il y aura un Américain aussi qui va parler. Donc, c'est un mélange des réalités locales et les réalités occidentales et pourquoi pas aussi asiatiques pour voir de ce qu'on peut faire pour essayer de promouvoir le café congolais sur le marché international.
Aujourd'hui, c'est la deuxième édition, c'est ça? Et qu'est-ce que vous attendez exactement de cette conférence de deux jours?
L'attente, c'est comme l'année passée. D'abord, que les coopératives arrivent à présenter leurs micro-lots. Ça a été fait parce que le café est déjà disponible ici à Goma. On a déjà envoyé les échantillons à partir de New York. La dégustation à New York a commencé depuis aujourd'hui et demain. Et donc, demain, on va proclamer les résultats des scores de dégustation. C'est la moyenne des deux jurys. Donc, il y a un jury national basé ici à Goma qui a dégusté depuis samedi. Et le jury international va déguster demain à partir de New York. Et après cette dégustation, maintenant, on va faire ce qu'on appelle Congo Coffee Week, donc les cafés, la semaine du café congolais. Là, on va inviter les torréfacteurs américains qui vont venir déguster. Et après cette dégustation, maintenant, ils vont proposer le prix, ce que nous appelons vente aux enchères. Et l'année passée, ça a été formidable parce que le premier café était vendu à 25,79, qui est vraiment une nouveauté à la République démocratique du Congo. Aucun café n'avait été vendu à ce prix-là. Et pour cette année, nous avons aussi espoir qu'on va faire mieux que l'année passée.
Oui, est-ce que on peut avoir certaines statistiques, par exemple, de vos productions ici dans cette région par rapport à ces défis?
Pour les statistiques, c'est un peu compliqué parce qu'en principe, c'est l'ONAPA qui devrait se concentrer par les statistiques, d'autant plus que c'est l'ONAPA qui donne tous les documents d'exportation. Mais vous connaissez la situation dans laquelle nous vivons, c'est un peu difficile d'avoir les statistiques à ce moment précis, malheureusement.
Est-ce qu'il y a certains défis particuliers, à part bien sûr questions sécuritaires, mais d'autres défis auxquels font face les producteurs et qui devraient faire objet des débats à travers cette conférence?
Justement, la conférence réunit les banquiers, les chercheurs qui vont parler sur tout rapport avec les changements climatiques. Nous sommes au mois d'août, en principe, il devrait y avoir du soleil, mais il y a la pluie. Il y a aussi les organes certificateurs qui vont aussi intervenir. Il y a Control Union qui va parler demain. Il y a aussi des experts qui vont parler sur la réglementation, les normes européennes sur la déforestation. Mais aussi Congo Agri a une longueur d'avance parce que nous avions déjà mené une enquête qui nous permet de savoir le niveau de conformité des coopératives à cette réglementation. Et après, Congo Agri va proposer son appui aux coopératives pour qu'ils se conforment. Parce que n'oubliez pas, cette réglementation va commencer à s'appliquer à partir du mois de janvier de l'année prochaine, donc de l'année 2026.
Monsieur Justine Kamondo, merci.
Merci beaucoup, monsieur Bernadet.
C'était Guylaine Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri, qui nous parlait des enjeux et des perspectives de la deuxième édition de la conférence du concours de qualité du café congolais organisé à Goma. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. À la présentation, Gisèle Cage, mise en onde, Billy Landry Betou, coordination Richard Junior Kamunga, supervision Poli Mousalia. Merci pour votre écoute attentive et votre fidélité. L'actualité continue sur Radio Okapi et sur nos plateformes numérique. Restez informés, restez connectés.